Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et tout de suite, le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une des dizaines de mesures choc.
À peine de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé cette nuit toute une série de décrets sortis des accords de Paris sur le climat, de l'Organisation mondiale de la santé, état d'urgence à la frontière mexicaine. On y revient dans un instant. L'immigration, thème prégnant de la campagne du 47e président américain en Californie, bastion anti-Trump. Plusieurs villes ont annoncé vouloir protéger les migrants. Conséquences aurait un tel bras de fer? Élément de réponse dans ce journal. Au sommaire également, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, l'espoir des humanitaires qui souhaitent pouvoir entrer à Gaza pour venir en aide aux Gazaouis. Témoignage à suivre d'un médecin marocain. Et puis nous reviendrons sur l'arrestation de trois officiers de l'armée ukrainienne accusés de négligence et d'inaction lors de l'offensive russe menée dans la région de Kharkiv en mai dernier, responsable de la fuite de milliers d'habitants et de la perte du contrôle de la frontière.
Avalanche de décrets cette nuit aux États-Unis.
Quelques heures seulement après son investiture que vous avez suivi en direct sur RFI, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a signé toute une série de mesures. Les précisions à Washington de Guillaume Nodin.
L'image est saisissante. Donald Trump est dans le bureau ovale et sur sa table de travail sont empilés de nombreux parapheurs. Il signe et signe encore en expliquant aux journalistes présents ce que contiennent les dossiers. Sorti des accords de Paris sur le climat, comme il l'avait fait lors de son premier mandat avant que Joe Biden les réintègre, le jeu du va-et-vient continue donc. Annulation de certaines décisions prises par son prédécesseur, comme le retrait de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme deux jours plus tôt, ou encore les limitations des forages en mer. L'un des décrets favorise l'extraction des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole. En dehors de la question énergétique, le dossier migratoire fait partie des priorités. L'état d'urgence est déclaré à la frontière sud et les cartels sont ajoutés à la liste des organisations terroristes. Il veut aussi redéfinir le droit du sol avec l'intention annoncée d'y mettre fin, bien qu'il soit inscrit dans la Constitution et que cela annonce de féroces batailles juridiques. Enfin, comme il le promet depuis des mois et des mois, Donald Trump signe des grâces massives pour les émeutiers condamnés du 6 janvier 2021, qualifiés par lui dans l'après-midi d'otage et qui passe donc d'une signature du statut de criminel à celui de victime. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Donald Trump l'avait promis, le lancement dès le premier jour de son mandat d'une vaste opération d'expulsion de sans-papiers.
Opération qui pourrait mener à reconduire des millions de personnes à la frontière, rien qu'en Californie. Bastion anti-Trump, ils sont 1 800 000 et les autorités préviennent, pas question d'aider Donald Trump à les expulser. Certaines villes se sont même déclarées sanctuaires pour les protéger. Nadia Marine Molina de l'ONG Andy Lone défend les travailleurs immigrés.
Ce que ces villes affirment généralement, c'est qu'elles ne coopéreront pas avec les agents fédéraux de l'immigration. Elles ne vont pas leur faciliter la tâche. Concrètement, ça signifie que les services municipaux ne fourniront pas d'informations, de noms ou d'adresses concernant les migrants en situation irrégulière. Or, c'est précisément ce que souhaite l'administration fédérale, que les arrestations soient simples et rapides. Cela dit, le statut de ville sanctuaire ne peut pas empêcher des raids contre les immigrants comme ceux qui ont eu lieu récemment à Bakersfield, en Californie. Mais il y a une chose certaine. Avant la mise en place de ce statut, des centaines de milliers de migrants étaient arrêtés et expulsés à la chaîne. La police locale les remettait directement aux agents fédéraux dans les prisons et les centres de détention. Ce statut a donc permis d'éviter de nombreuses arrestations. En clair, cela signifie que nous n'allons certainement pas leur faciliter la tâche. Nous allons riposter.
Des propos recueillis par Arim Lipold.
La rébellion des anti-Trump en Californie, ambiance radicalement différente à Jérusalem hier soir.
Avec cette grande soirée organisée par une organisation américaine évangélique pro-israélienne pour célébrer l'investiture de Donald Trump. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Nicolas Falaise.
Il y a un orchestre et des sourires. La plupart des invités sont des Israéliens d'origine américaine. On aperçoit quelques casquettes rouges « Make America Great Again ». À la tribune, une représentante du gouvernement israélien voit en Donald Trump un authentique ami d'Israël qui comprend la menace iranienne. Puis c'est au tour de l'hôte de la soirée, Mike Evans, fondateur des Friends of Zion, les Amis de Sion, l'une de ces nombreuses organisations protestantes évangéliques américaines qui se définissent comme sionistes et rejettent toute souveraineté autre qu'israélienne sur les territoires palestiniens occupés. Le ton devient prophétique lorsque Mike Evans promet La paix entre Israël et l'Arabie Saoudite cette année, et c'est Donald Trump qui la portera. La salle applaudit le serment de Trump, diffusé en direct sur écran géant. Mais une ombre passe dans le regard de certains invités lorsqu'on évoque l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Erika est une israélo-américaine, fan de Trump, mais elle sait que ce dernier a exercé une très forte pression sur Israël pour décrocher cet accord avant son investiture. Libérer autant de terroristes pour récupérer nos otages, c'est le résultat de la négociation de Trump. C'est très effrayant. Ça me rend très nerveuse. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
Et Donald Trump s'est dit ce matin pas sûr que la trêve à Gaza tienne. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a quant à lui déclaré hier vouloir s'assurer que la bande de Gaza ne présente plus jamais de menace pour Israël au deuxième jour du cessez-le-feu avec le Hamas. Dans l'enclave, ce sont plus de 900 camions d'aide humanitaire qui sont entrés hier d'après les Nations Unies. C'est plus que les 600 quotidiens fixés par l'accord.
Un espoir donc pour les Gazaouis partagé par les humanitaires.
Certains s'apprêtent à entrer dans la bande de Gaza pour leur porter assistance. Ils attendent encore d'obtenir l'accord. C'est le cas de Zouer Lana, gynécologue marocain. Il est déjà allé 3 fois dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre et espère pouvoir y retourner le plus vite possible.
Et je pense que les besoins post-guerre, moi qui en ai fait pas mal, des fois ils sont aussi importants, sinon même plus, que les besoins pendant la guerre.
Qu'est-ce que ce cessez-le-feu change pour vous qui êtes des médecins, des humanitaires concrètement ?
Ah, ça change énormément. Déjà, on respire, on est content, on est heureux pour toutes ces personnes qui viennent de passer une première nuit sans bombardement, sans les bruits des drones. Parce qu'à chaque fois qu'on était, nous-mêmes, quand moi je passais de mon logement à l'hôpital, à n'importe quel moment, il peut y avoir un missile qui tombe. Deuxième chose, il y a toute cette pathologie chronique qu'on va voir, tous ces blessés, et on va pouvoir penser à autre chose qu'au quotidien qui est juste de secourir les gens, de parer au plus pressé. Maintenant, on est tellement content de ce ouf de cesser le feu que tout paraît possible.
Un témoignage recueilli par Amira Souilem pour RFI.
C'est une information RFI. Saïf al-Islam Kadhafi sort du silence.
Dans un échange écrit avec RFI, le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, alors que l'ancien président est en ce moment jugé à Paris. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Saïf al-Islam Kadhafi assure aussi que le clan Sarkozy l'a approché 3 fois pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire. Accusation démentie par les avocats de l'ancien président qui les qualifie de fantaisistes et opportunistes.
Et on y reviendra dans notre journal de 8h. Le conflit en Ukraine ne se terminera pas demain ni après-demain. L'avertissement hier d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées.
Et dans le même temps, le bureau d'enquête ukrainien a annoncé l'arrestation de 2 généraux et d'un colonel accusés d'inaction et de négligence lors de l'offensive russe menée à Kharkiv en mai dernier, offensive responsable de la fuite de dizaines de milliers d'habitants et de la perte du contrôle de la frontière. Les précisions de Romain Lemaresquier.
Les actions des commandants ont entraîné la perte de personnel et d'armes et ont fait échouer la défense de la frontière de l'État dans leur zone de responsabilité. Une attitude, je cite, négligente, qui avait permis à la Russie de pénétrer jusqu'à 10 km de profondeur, estime le bureau d'enquête ukrainien dans un communiqué diffusé ce mardi. Les 3 militaires écroués, un ancien commandant du groupement tactique de Kharkiv, un ex-commandant de la 125e brigade de défense territoriale et un ancien commandant d'un bataillon, sont notamment accusés d'avoir mal coordonné la défense de ce secteur, de ne pas avoir organisé le soutien de l'artillerie et de l'aviation et de ne pas avoir préparé les fortifications. Bref, des négligences en cascade qui ont permis l'avancée des troupes russes et la destruction complète de plusieurs localités abandonnées de toute urgence par des habitants qui avaient tout laissé derrière eux. Par ailleurs, un des 3 gradés arrêtés est également accusé d'avoir fui les zones de combat et donc de désertion. Ces arrestations font suite au travail d'enquête réalisé par le service de sécurité d'Ukraine en collaboration avec le bureau d'enquête et avec l'aide d'experts spécialisés. Les 3 militaires incriminés risquent jusqu'à 10 ans de réclusion.
Romain Le Maresquier.
Une première aujourd'hui en Corée du Sud. Un mois et demi après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, Yoon Se-kyol, incarcéré depuis le 15 janvier, assiste aujourd'hui à une audience à son procès en destitution.
Un président en fonction arrêté. Situation inédite que le voisin nord-coréen s'est empressé d'utiliser pour servir sa propagande, Nicolas Roca.
La crise politique chez les pantins sud-coréens après une loi martiale fasciste et dictatoriale. Dans son style inimitable, le Nodong Sinmun, quotidien du Parti du Travail de Corée, détaille les étapes qui ont conduit au sort désastreux connu par Yoon Se-kyol. Retranché dans sa résidence, protégé par des soutiens et des barricades, il finit par être arrêté, approfondissant ainsi, selon le journal, le chaos chez le voisin. L'article souligne aussi le destin tragique des présidents conservateurs, Yoon Se-kyol étant le cinquième à être emprisonné. Il risque la peine de mort, souligne Pyongyang, qui ne précise pas que la dernière exécution dans le pays remonte à 1997. Aucune mention non plus de la défense du président déchu, qui assure avoir déclaré la loi martiale pour lutter contre de soi-disant ingérences nord-coréennes. Voir Pyongyang se féliciter des déboires de Yoon Se-kyol, un faucon partisan d'une ligne très dure face à la Corée du Nord, n'a rien d'étonnant, mais la nouvelle est traitée en citant la presse étrangère, notamment celle de l'ennemi américain. Une manière de montrer que la décision choque à travers la planète, mais aussi de prendre ses distances avec la Corée du Sud, le plus grand ennemi, selon les mots de Kim Jong-un.
Nicolas Roca.
On termine ce journal en musique, Alban, avec la sortie du quatrième album de Songoï Blues.
Oui, le groupe malien revient aux fondamentaux dans son nouveau disque Héritage, composé de 11 titres aux sonorités blues touareg. Marius Lafont.
Sur la pochette, un homme portant un masque traditionnel bordé de coquillages. L'album Héritage de Songoï Blues marque bien le retour du groupe à ses sources. Les textes en songhaï ou en bambara sur la vie au bord du Niger, les sonorités, tout ancre l'album dans la région d'origine des quatre musiciens, le nord du Mali. Leur disque précédent était rock, influencé par les Beatles et Jimi Hendrix. Ici, on sent la griffe folk et blues d'Ali Farka Touré. L'album entrelace de fines lignes de guitare acoustique et quelques pointes d'électrique. Aux sonorités délicates s'ajoutent des instruments traditionnels, balafon, kora ou soku. Le rythme doux et la production épurée de l'album nous transportent, comme si nous étions sur un navire descendant le fleuve Niger à observer les berges, avec Songoï Blues jouant sur le pont.
Le nouvel album de Songoï Blues, accompagné d'un mini-documentaire sur sa composition et son enregistrement, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube du groupe.
Merci Alban Le Prince, et votre journal à vous est à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Bonjour à vous, bienvenue, il est 7h13 à Paris, ravi de vous retrouver. Dans les prochaines minutes, on va revenir sur les premières orientations de la politique du président fraîchement de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump. Hier, lors de son investiture, a posé, comme prévu, les jalons de sa vaste offensive anti-immigration parmi d'autres annonces. On y revient dans les prochaines minutes avec notre invité, mais d'abord le sport. Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
En football, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. 9 rencontres au programme de l'avant-dernière journée de phase initiale.
Deux clubs français en lice, Lille à Liverpool en soirée à 20h temps universel. Et juste avant, 17h45 TU, Monaco reçoit Aston Villa, des Anglais, 5e au classement face à des Monégasques qui ont perdu leurs deux derniers matchs et glissé au 16e rang. L'ASM très clairement en difficulté et qui n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Redresser la barre devient donc urgent, reconnaît l'attaquant Brelem Bolo.
De montrer qu'on est toujours l'équipe qu'on était il y a 2-3 mois. C'est un match de Ligue des Champions. On a un peu la chance de remettre le match contre Benfica qu'on s'est fait un peu prendre, j'ai envie de dire, ici. Mais c'est une autre opportunité de montrer nos qualités et de chercher une victoire et de changer la tendance. J'ai confiance en mon équipe et dans des moments comme ça, il faut plus travailler, il faut plus faire attention, surtout sur le terrain, parce que les petites décisions, ils sont un peu punis par les adversaires. Et c'est juste des petits trucs qu'il faut changer, il faut réaliser.
et être unis et travailler.
9 rencontres donc en tout ce mardi avec entre autres le leader Liverpool qui accueille Lille, ça sera Anfield Road on l'a dit, et Barcelone deuxième pour l'instant de cette phase initiale et de son côté en déplacement sur la pelouse de Benfica tandis que l'Atlético de Madrid accueille le Bayer Leverkusen.
Le football européen également sur les pelouses avec la Ligue Europa.
Une rencontre en préambule de la Ligue des Champions, les Turcs de Galatasaray, 6e au classement, accueillent à 15h30 temps universel le Dynamo Kiev, dernier avec 6 défaites en 6 journées.
Du handball également et 2 duels de haut de tableau au mondial masculin.
Pour le début du tableau principal, le Danemark, leader du groupe 1, affronte l'Allemagne. Deuxième, ça sera à 19h, temps universel, un peu plus tôt. La France, première de son groupe 2, jouera contre la Hongrie à partir de 20h TU. Les Bleus qui restent sur 3 victoires en 3 matchs dans le tour préliminaire.
On termine avec le tennis, Antoine, et le choc très attendu en quart de finale de l'Open d'Australie.
Un duel entre deux anciens numéro 1 mondiaux. Novak Djokovic, 10 fois vainqueur du tournoi face à Carlos Alcaraz, qui n'a jamais passé les quarts de finale à Melbourne. Une affiche qui constitue déjà un grand classique du tennis entre le Serbe de 38 ans aux 24 trophées du Grand Chelem et l'Espagnol de 21 ans qui en compte déjà 4. S'affronter aussitôt dans un tournoi, c'est inédit, mais Carlos Alcaraz ne s'en formalise pas.
Ce n'est pas l'adversaire idéal pour un quart de finale. Mais jouer Novak en quart ou en demi, ça ne change rien. Je vais aborder le match comme les autres fois contre lui et on verra. Ce qui est sûr, c'est que je n'essaie pas de penser à tout ce qu'il a fait dans le tennis, à son palmarès, à ses records, sinon je serais incapable de jouer. J'essaie juste de me concentrer sur la manière de le dominer. Je connais mes armes et je sais que je peux jouer du bon tennis contre lui et que je peux le battre. C'est à ça que je pense quand je l'affronte. Ce sera notre premier affrontement sur dur en Grand Chelem. C'est très excitant. En tout cas, je suis prêt à utiliser tout le potentiel que j'ai sur cette surface.
Alcaraz Djokovic, revanche de la finale des JO de Paris remportée par le Serbe. Leur retrouvaille à Melbourne, elles débuteront vers 9h30 temps universel.
Merci Antoine Grenier. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche depuis hier, la cérémonie d'investiture à peine achevée. Le 47e président des États-Unis s'est mis en scène, signant décret sur décret, dessinant les contours de sa politique. Politique censée ramener l'Amérique à une forme d'âge d'or, ce sont les mots qu'il a employés, Donald Trump. On en parle dans les prochaines minutes avec notre invité. Bonjour Maxime Charvaux.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé à l'Institut de géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste de la politique américaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'était attendu, c'était l'un des piliers de sa campagne. Donald Trump n'aura pas laissé passer une minute après son investiture avant de s'attaquer à l'immigration. On l'écoute.
Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets exécutifs historiques qui permettront de reconstruire les États-Unis et de revenir au bon sens. D'abord, je déclarerai l'état d'urgence à notre frontière sud. Toute personne entrée illégalement sera immédiatement retenue et nous commencerons le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers chez eux. Et j'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays. En tant que commandant en chef, je n'ai d'autres responsabilités que de défendre notre pays des menaces, des invasions, et c'est exactement ce que je vais faire.
Revenir au bon sens, renvoyer des millions et des millions de criminels chez eux, menaces, invasions, une rhétorique très violente employée par Donald Trump qui répond à quoi, à quelle ambition d'après vous ?
On retrouve un élément central de ces campagnes depuis 2016-2017 maintenant, cette idée d'une invasion des États-Unis par les immigrants venant notamment d'Amérique centrale. Une rhétorique assez classique, isolationniste, de ce point de vue-là, mais aussi un sujet assez central au cœur du Parti républicain depuis maintenant de très longues décennies, et quelque chose qui a toujours marché pour lui. C'est un élément payant de toutes les campagnes qu'il a pu mener. C'est un argument payant également face à Joe Biden durant sa présidence et durant la campagne précédente. Joe Biden était très en difficulté sur la gestion de la crise migratoire aux États-Unis à la frontière avec le Mexique. Et c'est quelque chose qui a permis notamment à Donald Trump également de convaincre des électeurs de ses frontières qui pendant très longtemps ne partageaient pas cette vraie rhétorique d'invasion, de difficulté, et qui aujourd'hui, aux dernières élections, ont basculé en masse vers le Parti républicain de Donald Trump. Donc c'est quelque chose de gagnant de tout point de vue, de son point de vue.
Mais alors, on peut se demander si toutes ces mesures annoncées vont pouvoir se mettre en place. Il a aussi signé un décret, Donald Trump, revenant sur le droit du sol, même si cette disposition est prévue par la Constitution. Il n'y a aucun frein qui se mette face à lui dans son action ?
Disons que il y a un travail qui va se passer dans les cours américaines pendant plusieurs années, probablement maintenant, pour justement tester la validité de ces éléments. Un décret présidentiel demeure avant tout un ordre de mission donné au gouvernement fédéral américain sur la manière dont certains sujets de politique publique doivent être traités. Donc il y a toute une partie quand même rhétorique sur ce genre d'éléments. Maintenant, le fait d'avoir déclaré un état d'urgence à la frontière lui permet quand même d'envoyer l'armée sur place, si besoin, et c'est quelque chose qu'il a déjà annoncé qu'il allait faire. Ça lui permet également de rediriger dans une certaine mesure des fonds qui ont déjà été alloués au gouvernement américain pour certains projets, notamment la construction du mur. Mais sur ce sujet-ci, parce qu'il y a une question quand même financière importante derrière, comme sur le sujet du droit du sol, c'est quelque chose qui devra de toute façon aussi être travaillé avec le Congrès américain. La question du droit du sol, c'est une demande très très forte de la part du parti républicain, sur lequel d'ailleurs il a un peu arrondi les angles, parce qu'il explique que seuls les États-Unis aujourd'hui dans le monde ont cette disposition dans leurs droits, ce qui n'est quand même pas vrai. Et comme vous l'avez expliqué, c'est quelque chose qui est normalement protégé par le 14e amendement de la Constitution américaine, et il y a une très grande majorité des avocats ou des juristes aujourd'hui aux États-Unis qui le pensent. Donc c'est quelque chose qui va peut-être être annulé par la suite, mais qui en tout cas sera l'objet d'un discours pour l'instant gagnant pour Donald Trump.
Alors vous parliez de l'économie et on parlait des possibles freins qui allaient se mettre face à Donald Trump dans cette volonté et dans ces mesures. Stéphane Genest est avec nous en studio. Stéphane, bonjour. Pour aujourd'hui, l'économie, vous nous expliquez en quoi l'immigration est importante pour l'économie américaine.
Oui, hein, qu'elle soit légale ou illégale, en fait, elle participe à la vitalité de l'économie du pays. Elle soutient la croissance tout court, mais aussi la croissance démographique. Alors évidemment, pas de chiffres précis sur le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis sans y être nées, mais le bureau du budget au Congrès américain parle de plus de 32 millions d'immigrés actifs sur le marché du travail. Là encore, c'est important de le préciser, ce nombre englobe les travailleurs légaux et illégaux. En 2022, ils étaient un peu plus de 8 millions de migrants illégaux à travailler aux États-Unis. Et c'est cette catégorie de personnes que visent les mesures anti-immigration de Donald Trump. Ces femmes et ces hommes qui travaillent généralement dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment, dans l'industrie, le service à la personne, mais aussi dans l'hôtellerie.
Et qui dit travail, dit production de richesse.
Oui, par définition, ils créent de la valeur et ça peut être synonyme de croissance. Et puis surtout, en travaillant sur le sol américain, toutes ces personnes dépensent leur salaire sur le sol américain, payent des impôts à l'administration fiscale américaine. Et certains couples font des enfants, ce qui implique également une source de consommation et sur le long terme, de la main-d'œuvre en devenir.
Alors Stéphane, pourquoi Donald Trump s'en prend autant à l'immigration ?
Parce que pendant le mandat de Joe Biden, le marché de l'emploi était particulièrement tendu. L'économie américaine, elle sortait des confinements et de la pandémie de Covid. Et pour relancer la production, le pays manquait de main-d'œuvre, généralement d'emplois qui étaient peu qualifiés. Eh bien, ce sont ces personnes immigrées qui ont accepté d'occuper ces postes. Durant le mandat de Joe Biden, la population active née à l'étranger a augmenté de 15%.
Et quels sont les arguments de Trump ?
Il considère que cette main-d'œuvre prend la place des Américains qui sont nés aux États-Unis. Plus encore qu'il y a une compétition entre migrants et non-migrants pour accéder aux emplois. Autre argument, parce que ce sont les migrants qui acceptent des emplois non qualifiés. D'après Donald Trump, ils contribueraient à la baisse des salaires et que par leur présence sur le sol américain, ils participeraient à l'inflation car ils feraient augmenter la demande. Or, tout cela n'a jamais vraiment été prouvé.
Et donc, Stéphane, que se passerait-il si Donald Trump met à exécution son plan d'expulsion massive ?
Difficile de le dire avec précision, avec certitude, mais déjà, ce serait très coûteux. D'après le groupe de réflexion pro-immigration National Immigration Forum, il coûterait 150 milliards de dollars. À cela, il faut ajouter 15 milliards de dollars par an pour maintenir la sécurité aux frontières. Et puis surtout, ça va frapper de plein fouet des secteurs d'activité entiers, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence, puisque d'après les économistes de Bloomberg, le principal impact pourrait être la baisse du PIB, voire atteindre une croissance nulle sous le mandat de Donald Trump. Preuve que l'immigration aux États-Unis n'est pas un jeu à somme nulle et qu'elle a un poids très, très concret dans l'économie du pays.
Alors Maxime Chervaux, merci Stéphane Jeunesse. Maxime Chervaux, on s'interrogeait sur la mise en œuvre de ces mesures anti-immigration. Alors si on ne prend en compte que l'aspect économique dont nous parlait Stéphane, Donald Trump est un businessman, son but c'est de faire du profit. Ici, le compte n'y est pas, visiblement, il ne peut pas ne pas s'en rendre compte, le président américain.
C'était déjà le paradoxe du premier mandat où, en l'espace de quelques années, il avait réduit le nombre d'entrées d'immigrants aux États-Unis à peu près 10 000 personnes, 11 000 personnes, je crois, de mémoire, alors qu'il était aux approximativement 200 000 personnes sous Barack Obama. Et c'est quelque chose qui avait, en tout cas, donné le sentiment de marché parce que l'économie américaine, jusqu'au début de la crise de la pandémie, était en surchauffe presque à un certain moment, mais en tout cas marchait très très bien. Donc c'est quelque chose sur lequel, c'est un argument qui ne marche pas de son point de vue pour l'instant. Là où il va réellement y avoir un débat, parce qu'il a mis hier stop à grosso modo toutes les entrées d'immigrants aujourd'hui aux États-Unis, au process même d'ailleurs de leur dossier, ce qui va vraiment jouer, ça va être les personnes qualifiées et l'immigration des personnes qualifiées dans l'économie américaine, sur lesquelles il y a un débat entre la branche Musk et Tech de sa coalition et la branche beaucoup plus traditionnelle qui, elle, refuse l'arrivée également de personnes qualifiées dans le marché du travail américain.
Alors tout ça participe à un récit de Donald Trump. On a d'ailleurs pu l'entendre hier, une radicalité vraiment très présente, assortie d'une violence aussi dans ses propos. Les États-Unis ne reconnaîtront désormais que le sexe masculin et féminin. C'est l'une des premières mesures qui a été confirmée hier par le nouveau président américain. Le genre X destiné aux personnes qui se disent non-binaires est supprimé. Les aides fédérales à la diversité stoppées. Ça aussi, ça participe à ce nouveau récit qu'impose Donald Trump.
Oui, c'est une nouveauté quand même de son second mandat par rapport au premier, mais c'est quelque chose qu'on a vu monter durant les différentes primaires républicaines et durant les différentes élections à un échelon État, auparavant notamment au Texas, où la question transgenre s'est imposée durablement quand même au sein du parti républicain et au sein du débat politique, et c'est d'ailleurs une thématique sur laquelle les démocrates n'ont pas réussi vraiment à réagir, et on le voit encore une fois, le Texas est un très très bon exemple, à la fois sur le traitement hormonal qui est offert aux jeunes qui veulent, aux jeunes transgenres, mais également sur la présence des femmes, femmes transgenres dans le sport américain. Et donc sur les deux sujets, les démocrates ont été mis en difficulté. Donald Trump et les républicains ont largement dominé, et c'est assez peu surprenant maintenant qu'il utilise la force du gouvernement fédéral pour, selon lui, réaligner les priorités de ce point de vue-là.
Alors tout ça, alors que un décret a été signé aussi pour accorder la grâce à 1500 personnes condamnées pour avoir assailli le Capitole le 6 janvier 2021. Quel message ça envoie, tout ça?
Grosso modo, alors on va rebaisser les impôts et on va déréguler. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait Joe Biden, et Joe Biden a fait beaucoup de choses du point de vue également exécutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le Congrès pour pouvoir mettre en place des lois, il est passé par des décrets présidentiels, et comme il l'avait promis, mais comme il l'avait déjà fait après la présidence Obama, et comme Biden l'avait également fait en 2020 après la présidence de Donald Trump, premier mandat, il y a une volonté tout simplement d'effacer d'un coup de trait toutes les régulations de son point de vue qui ont été mis en place par l'administration démocrate, et en fait de déréguler l'économie américaine.
Et de mettre en place son récit. Il a parlé d'otages en parlant de ces personnes libérées.
Exactement, c'est-à-dire que tout ce qu'il appelle la politique woke sur les transgenres, sur la politique de discrimination positive, sur l'égalité de genre, etc., toutes ces choses-là, plus environnementales, sont retirées, grosso modo, du pouvoir, la juridiction nationale, fédérale, et à la rigueur, le sujet renvoyé vers les États.
Mais bien, merci beaucoup, Maxime Chervaux. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup à dire après cette prise de parole de Donald Trump hier. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
Merci beaucoup.
D'RFI, et à une prochaine.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Retrouver un sommeil de qualité sans médicaments.
Demain.
Guerre contre la drogue, qu'en pensent les médecins spécialistes des addictions?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Comment se raconter sans tomber dans l'autofiction avec la figure? Bertrand Belin, chanteur et écrivain, raconte des sensations, les mots enfouis, les entrelacs de la mémoire. Ce nouveau roman est une conversation entre lui et sa conscience pour évoquer les figures de l'enfance, ses blessures et ses questions.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Où nous mènera la seconde révolution quantique?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Question ouverte par et avec Alain Aspect, prix Nobel de physique, pour avoir démontré et expérimenté l'impossible, la non-localité et l'intrication quantique. Le professeur Alain Aspect est notre invité en direct autour de son ouvrage « Si Einstein avait su ».
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.